Alors, cet après-midi, je voudrais commencer par une introduction au psaume que nous allons regarder ensemble. Et comme nous sommes des bons Canadiens, on va parler un petit peu des chutes du Niagara. Et quand j'étais aux études à Toronto, on allait souvent visiter les chutes du Niagara. Pourquoi ? Parce que tous les amis qui venaient nous voir voulaient voir les chutes du Niagara. Après les avoir vues quelques fois... On aurait aimé visiter autre chose. Mais en tout cas, on allait souvent voir les chutes du Niagara. Et vous savez probablement qu'un homme qui s'appelait Jean-François Gravelet, surnommé Charles Blondin, était un funambule. C'est-à-dire qu'il aimait marcher sur des câbles que l'on tendait d'un endroit à un autre. Et généralement, il aimait faire ça au-dessus de précipices. Et on avait tendu un câble au-dessus des chutes du Niagara. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire. Et cet homme-là, qui est né le 28 février 1824, donc il y a quand même des choses qui se sont passées dans les siècles passés. Là, tu sais, tout ne se passe pas aujourd'hui. Hein. Mais déjà, il est né le 28 février 1824. Il est mort le 19 février en 1897. Et il est très connu pour avoir traversé les chutes du Niagara sur un câble le 30 juin 1859. Et en fait, les chutes du Niagara, il ne les a pas traversées qu'une seule fois, il les a traversées 17 fois. Et à l'occasion d'une de ces traversées, on avait posé la question à la foule, est-ce que vous avez confiance que cet homme-là va pouvoir traverser encore une fois les chutes du Niagara? Tout le monde, oui, il l'a déjà fait, c'est fantastique. Alors, si vous avez confiance, qui veut aller avec lui traverser les chutes du Niagara? Ah non, hein. Tout le monde a dit non. A dit, moi, je veux pas y aller. Je sais qu'il peut le faire, mais moi, je veux pas y aller. Et finalement, la personne qui a accepté, c'est son gérant, son manager, qui est monté sur son dos, comme vous voyez sur l'image, et qui a traversé les chutes du Niagara avec lui. Et ça, c'est une très belle illustration de ce que c'est que la foi. Est-ce que vous croyez en Jésus?
Oui,
on a toutes les bonnes réponses. Est-ce que vous mettez votre confiance en Dieu? Oui, on a toutes les bonnes réponses. Mais quand il s'agit de traverser les chutes du Niagara en compagnie de Dieu, là, c'est notre paire de manches. Et là, notre foi n'est peut-être pas aussi solide que ça pourrait paraître lors de nos confessions de foi. En fait, la foi, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. La foi, c'est un engagement avec Dieu sur le chemin qui est devant nous. La foi, ce n'est pas une simple confession. Oui, c'est une confession. Hein? Oui, la Bible nous demande de confesser notre foi. Mais notre foi, c'est aussi un engagement à aller de l'avant avec Dieu, même s'il faut traverser des ravins ou s'il faut traverser les chutes du Niagara dans notre vie. Alors, j'aimerais regarder avec vous un de mes psaumes préférés. C'est le psaume 27. Donc, on vient de voir notre illustration du funambule au-dessus des chutes du Niagara. Mais j'aimerais regarder avec vous la structure du psaume. On va le lire au fur et à mesure pour pouvoir suivre le déroulement du texte au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude de ce passage. Alors, tout d'abord, ce psaume est bâti d'une manière un petit peu particulière. David va exprimer sa confiance en l'Éternel dans les versets 1 à 3. Vous savez que les psaumes, on peut les cataloguer en catégories, il y a toutes sortes de psaumes. Il y a des psaumes messianiques, il y a des psaumes historiques, il y a des psaumes de reconnaissance, il y a des psaumes d'action de grâce, il y a des psaumes de confession, il y a toutes sortes de psaumes. Et le psaume qui est devant nous, le psaume 27, il fait partie de la catégorie des psaumes de confiance, ou des psaumes de foi, dans lesquels l'auteur ou les auteurs expriment leur confiance en Dieu. Et David, dans ce passage, commence par exprimer sa confiance en l'Éternel, dans les versets 1 à 3. On va voir le détail dans quelques instants, mais nous allons remarquer que dans le psaume, David va aussi terminer par l'expression de la confiance en Dieu. Donc, en quelque sorte, la confiance en Dieu encadre le début et la fin du psaume. Et cette deuxième référence à la confiance en Dieu va apparaître au verset 13 et 17. Et entre les deux, David va exprimer ou va faire monter vers Dieu deux prières. Et la première prière, c'est une prière dans laquelle il va exprimer son désir. Vous savez, souvent quand on traverse des moments difficiles, des épreuves, nous crions à Dieu, mais peut-être que nos prières ne sont pas assez complètes. Nous allons voir un petit peu quel est le désir de Dieu, de David dans des situations difficiles. T'sais. Est-ce que David fait juste crier à Dieu ou est-ce que sa prière de confiance comprend autre chose? Et on va le voir dans la première prière, mais on va aussi le voir dans la deuxième prière. Parce que non seulement dans la première prière, David exprime la crainte qu'il habite, le désir qu'il habite, mais dans la deuxième prière, David va exprimer sa crainte. Puis quand on vit des moments difficiles, souvent on entend des frères et des sœurs qui nous disent « Ah, mais fais confiance au Seigneur. » On a l'impression qu'il faut faire confiance au Seigneur, puis pas trop lui parler de nos craintes ou de nos peurs, comme si d'en parler pourrait faire en sorte que ses craintes et ses peurs allaient nous submerger. T'sais. Mais David est extrêmement réaliste. Il a confiance en Dieu, mais il peut aussi exprimer ses craintes devant Dieu. Il a toute la liberté d'exprimer ses peurs devant Dieu. Et ce n'est pas un manque de foi que d'exprimer ses craintes ou ses peurs devant Dieu. Alors si on regarde toute la structure du psaume, on peut à l'écran voir que le psaume commence par l'expression de la confiance de David en l'Éternel et finit par la confiance de David en l'Éternel. Et entre les deux, il présente donc ces deux prières. Alors ce que nous allons faire, nous allons diviser, nous, le psaume, non pas selon sa structure, mais selon un plan plus facile pour la prédication. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout d'abord regarder les trois premiers versets dans lesquels David exprime sa confiance à l'Éternel. Et on va regarder ça dans le contexte qui était celui de David, parce que notre contexte n'est pas tout à fait le même. Mais tout de même, dans ce que nous vivons, dans nos difficultés, dans nos défis qui sont devant nous, nos défis sont tout aussi importants que ceux de David, même s'ils sont différents. Ensuite, nous regarderons ensemble la confiance de David qui s'exprime par une première prière. Parce que la première prière de David, c'est aussi l'expression de la confiance qu'il a en Dieu. Et on va regarder quel désir David exprime devant Dieu. Ensuite, nous regarderons en troisième partie la confiance de David qui s'exprime par cette deuxième prière ou par la crainte de David. Parce que dans l'expression de notre crainte, nous pouvons faire preuve de foi en confiant notre crainte au Seigneur. C'est aussi paradoxal que ça. Puis en conclusion, on va revenir avec cette question de foi en l'Éternel dans les versets 13 à 14. Donc, premier élément, David exprime sa confiance en l'Éternel dans les versets 1 à 3. Alors, on va les lire ensemble. Psaume de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » En tous les cas, la référence à la guerre dans ce passage n'est pas une nouveauté. Hein. Il y a bien des chrétiens aujourd'hui qui vivent la guerre, hein, comme nous allons le commenter tout à l'heure. Alors tout d'abord, cette confiance de David, elle s'exprime au verset 1er par l'identité de la personne en qui David a confiance. Il commence le psaume en disant « L'Éternel est ma lumière ». Alors ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas notre idole sportive, ce n'est même pas un ami, ce n'est même pas notre conjoint. David, il dit « C'est l'Éternel qui est ma lumière et mon salut. » Et l'Éternel, comme vous le savez certainement, l'Éternel, c'est le Dieu de l'Alliance. Et le psaume ne commence pas en disant « Dieu est ma lumière et mon salut ». Le psaume commence en disant « L'Éternel est mon salut ». Et l'Éternel fait référence à cette alliance que Dieu a contracté envers son peuple. Vous savez que non seulement Dieu a fait alliance avec Moïse sur le mont Sinaï, il a fait alliance avec plusieurs personnes dans l'Ancien Testament, mais il a fait aussi alliance avec son peuple, et il a fait aussi alliance avec David. Vous savez, quand il a dit à David, il y aura toujours un descendant qui sera sur le trône de David. T'sais. En fait, nous savons que la prédiction de la venue du Messie passe par cette promesse. C'est par la descendance de David que le Messie viendra. T'sais. Donc l'Éternel, c'est un Dieu, quand il traite avec les hommes, il traite avec eux, non pas sur la base des émotions, mais il traite avec eux sur la base d'engagement, c'est-à-dire d'une alliance. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit sa parole. Nous pouvons nous fier à la parole de Dieu. Et David place sa confiance dans ce Dieu-là. Ce Dieu qui n'a qu'une parole. Ce Dieu qui s'engage. Et ce Dieu sur lequel nous pouvons avoir confiance. Alors, le verset premier nous dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Non seulement l'Éternel, c'est le Dieu de l'Alliance, mais David précise qui est l'Éternel. « L'Éternel est ma lumière. » Je ne sais pas si vous avez besoin de lumière, mais si vous vous levez la nuit à 3h du matin et que vous voulez aller aux toilettes, même si parfois vous connaissez le chemin par cœur, bien souvent vous allumez la lumière. T'sais. Peut-être que si vous êtes dans des contextes où vous avez un peu plus peur de l'obscurité, alors là vous avez besoin de lumière. T'sais. Si vous faites du camping, vous voulez aller aux toilettes la nuit, vous prenez une flashlight, c'est une lampe de poche, parce que vous avez besoin de lumière. Et c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel nous avons besoin de lumière. Tellement de gens sont perdus. Tellement de gens manquent de référence. Tellement de gens manquent d'encre. Tellement de gens manquent de racines. On est dans un monde pluraliste où tout le monde pense ce qu'il veut. Donc toi, c'est comme si tu es devant un énorme buffet, puis on te dit, fais ton choix. Et dans le fond, tu ne sais pas quoi choisir. Tu as besoin de direction. Moi, quand je vais au restaurant, puis qu'il y a un menu devant moi, c'est ma femme qui me dirige. Moi, je n'ai pas envie de prendre le menu, puis commencer à lire, puis lui dire, c'est quoi ce plat-là? Quel goût ça a? Je trouve ça trop compliqué. T'sais. Alors je dis, chérie, qu'est-ce que tu prends? C'est ma question. Je ne dis pas, dis-moi ce que je dois prendre. Non, me dis pas ça, t'sais. Mais par contre, je dis, chérie, qu'est-ce que tu prends? Alors elle me dit ce qu'elle prend. Alors je regarde le reste, et puis, bien souvent, je prends la même chose qu'elle. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Mais au-delà de cet humour, c'est vrai qu'on a besoin de lumière. On a besoin de lumière pour avoir dans notre vie, ou adopter dans notre vie, des valeurs qui soient des bonnes valeurs. Et vous savez, la meilleure valeur ou les meilleures valeurs à obtenir ou à adopter dans notre vie, ce sont les valeurs qui viennent de celui qui nous a créés. Si Dieu ne nous a pas créés, nous sommes devant un choix de valeurs qui est subjectif, qui peut être remis en question, qui dépend de notre arrière-plan, de notre éducation, de notre culture, tu sais. Et finalement, une valeur en vaut une autre. Et puis, tu sais, mais on a besoin de venir à Dieu pour que Dieu soit notre lumière. Et puisque lui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, que lui définisse les valeurs que nous devons adopter dans nos vies. C'est, on parle de vision chrétienne du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une vision chrétienne du monde? Une vision chrétienne du monde, c'est de comprendre quelles sont les valeurs auxquels nous devons adhérer en étant enfants de Dieu. C'est ça, les valeurs chrétiennes. T'sais. Et non seulement Dieu est notre lumière, dit David, l'Éternel est notre lumière, dit David au verset 1er, mais dit l'Éternel est mon salut. Ça veut dire que David reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur. Et le drame pour l'être humain, c'est qu'il ne veut pas reconnaître qu'il a besoin d'un sauveur. T'sais. Et le drame pour l'être humain, c'est de se comporter comme Adam et Ève qui ont dit, nous, on va décider nous-mêmes ce qui est bon et ce qui est Dieu, et ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous allons être pour nous-mêmes nos propres dieux. C'est nous qui décidons. Et ils n'ont pas compris qu'ils avaient besoin d'un sauveur, et l'être humain ne comprend pas qu'il a besoin d'un sauveur. L'être humain se bat continuellement pour réparer le mal qu'il provoque dans ce monde. Moi, je suis toujours ébahi quand je regarde notre société et que je vois toute l'énergie, l'argent que ça prend pour combattre le péché qui existe dans ce monde. Ou pour combattre la violence qui existe dans ce monde. Ou pour combattre les abus qui existent dans ce monde. Ou pour aider les victimes de toutes sortes de problèmes, à les aider à s'en sortir. À les aider à s'en sortir au niveau matériel, à les aider à s'en sortir au niveau psychologique. L'être humain passe son temps à combattre les méfaits des mauvaises décisions qu'il prend. Et ça se passe à tout le niveau. Hein. Ça se passe au niveau personnel dans nos rapports interpersonnels, ça se passe aussi dans les rapports sociaux, ça se passe dans les rapports entre pays, au niveau international. Vous savez qu'il y a des gestes qui sont posés par certains pays qui ont des effets sur bien d'autres pays, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser toutes nos ressources pour essayer de contrer les effets négatifs que certains pays posent, que certains gestes, certains pays ont posés. Ils ont posé certains gestes qui nous affectent. Donc David, lui, reconnaît d'emblée que l'Éternel est sa lumière et que l'Éternel est aussi son salut. Mais quand, dans ses paroles, quand il exprime sa confiance en l'Éternel, il n'exprime pas simplement la confiance en l'Éternel, en la personne de l'Éternel, mais il exprime sa confiance dans des circonstances précises. Comme j'ai dit tout à l'heure, dire « oui, j'ai la foi », c'est une chose. Dire « j'ai la foi » dans les situations qui sont les miennes, dans les défis qui sont les miennes, qui sont les miens, ça c'est une autre paire de manches. Et souvent nous nous posons la question de savoir pourquoi le Seigneur nous permet que nous faisions face à toutes sortes de problèmes dans notre vie. C'est certainement pour que notre foi puisse se démontrer dans ce que nous vivons. Et David ici va démontrer sa confiance dans des situations pratiques. Verset 2. Quand des méchants s'élèvent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ce verset 2 est quand même assez puissant. Hein. Regardez les paroles qui sont utilisées. Des méchants s'avancent contre moi. Mais nous, quand dans notre vie, ça va bien, on n'a pas trop de problèmes, on est bien avec nos voisins, ça va bien avec notre famille, nos amis, tout ça. On lit ça et on ne comprend pas. On dit, comment ça, des méchants, t'sais? Moi, je suis pas... Je ne me retrouve pas devant des méchants dans ma vie. Je n'ai pas des méchants qui m'attaquent. T'sais? Je vous ai peut-être déjà raconté ce que j'ai vécu à Toronto quand j'étais étudiant avec Luc. Là. Je vous ai dit ça peut-être quand Luc m'apprenait à conduire. Il avait une voiture américaine avec un pare-choc. Vous savez, ce n'était pas un pare-choc en plexiglas ou en matériel assez souple. C'était un pare-choc en métal, tu sais, les gros pare-chocs. T'sais. Et puis je conduisais sa voiture, puis il y avait 3-4 lignes là, sur la voie, sens unique. Puis un taxi qui me double, et puis qui se rabat devant moi là, en me coupant la route. Et il accroche le bout gauche du pare-choc avant. T'sais. Et le pare-choc avant fait contact avec la partie entre les deux portes sur le côté. Et là, il arrache plus ou moins la porte arrière, tu sais, en se dirigeant vers l'aile arrière droite de la voiture, tu sais. Ah, le chauffeur au taxi, il s'arrête vite, vite, et puis il fait sortir ses clients très, très vite pour pas qu'il ait témoin, imaginez-vous. Et puis, finalement, remplit les papiers. Mais à l'époque, il fallait déterminer qui était le fautif. Parce que les assurances ne te couvraient pas. C'est l'assurance de celui qui est fautif qui va couvrir les réparations des deux voitures, tu sais. Alors, on est allé en cours. Et alors, imaginez-vous, Luc, il a dû se dire, c'est la dernière fois que je donne des cours de conduite à Philippe. Tu sais. On est allé en cours, Luc était avec moi. Et puis, on se retrouvait devant un homme qui mentait devant le juge. Un homme qui présentait des faux chiffres, notamment en disant, moi, je suis chauffeur de taxi, j'ai eu cet accident, je n'ai pas pu travailler pendant X nombre de journées, ça m'a coûté tel montant d'argent. Puis le juge, il a fait des vérifications, puis il s'est rendu compte que le gars mentait, il gonflait la facture. Finalement, il s'est tellement empêtré dans ses mensonges que le juge ne l'a pas cru. Et vous savez, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, là, vous allez vous présenter en cours, vous dites, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le juge va pouvoir discerner la vérité? Est-ce que les gens qui sont en face de moi, ils vont être honnêtes? on y voit être méchant. Et souvent dans la société, des gens font face à des méchants. Vous pouvez avoir des voisins qui sont méchants. Vous pouvez avoir votre garagiste qui est méchant parce qu'il veut profiter de vous. Il veut vous changer une pièce de votre voiture qui est en bon état. Donc on fait face à toutes sortes de méchants dans notre société. Et David faisait face à des méchants qui étaient prêts à dévorer sa chair. Donc ces méchants-là ne voulaient pas simplement de son argent, comme ça peut être le cas dans notre société, où des gens veulent notre argent, mais ces méchants voulaient dévorer la chair de David. Ça c'est fort quand même. Ça fait allusion à une bête sauvage qui veut sauter sur toi pour te dévorer, pour que tu sois son plat favori. Ça me fait penser à une blague d'un missionnaire. Quand le missionnaire se retrouve en Afrique devant un lion, et puis il a peur, alors il prie le Seigneur et dit « Seigneur, donne-lui une pensée chrétienne. » Et le lion qui m'a prié, « Seigneur, merci pour ce repas. » En tout cas, ça c'était hors contexte. Alexandre, il va me dire « Non, mais dans ta prédication, tu as un peu dévié, tu n'étais pas tout à fait dans le texte. » Mais toujours est-il, il se retrouvait dans un danger où c'était une question de vie ou de mort. Dans de telles situations, qu'en est-il de ta foi? Tu dis que tu as foi dans le Seigneur. C'est vrai? Tout à l'heure, je posais la question rapidement, vous avez dit oui, on a la foi. Mais qu'en est-il quand vous passez au travers de l'épreuve de la fournaise ardente? Est-ce que vous avez toujours cette foi? Et est-ce que l'exercice de cette foi est un témoignage pour ceux qui vous entourent? Vous savez pourquoi nos jeunes aujourd'hui, qui sont élevés dans l'église, ne viennent pas au Seigneur? C'est une bonne question à se poser. Il y en a un bon pourcentage qui ne viennent pas au Seigneur. Alors je n'ai pas des réponses. Mais je me demande parfois si ces jeunes-là élevés dans les milieux chrétiens n'ont peut-être pas assez vu la foi de leurs parents en action. Pour que eux à leur tour puissent se dire « Moi aussi, j'ai envie de placer ma foi dans ce Dieu auquel mes parents croient. » Pas facile, hein? Alors, David, vous le connaissez, il nous dit dans ce verset 2, « Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. » Il a déjà vécu toutes sortes d'expériences, notamment celle avec Goliath. Quand il se retrouve face à Goliath, ce vantard qui voulait se battre contre le meilleur de l'armée d'Israël, et qui a ri quand il a vu ce jeune garçon s'avancer contre lui. C'est ça vos meilleurs soldats? Et vous connaissez le reste de l'histoire. David est venu combattre au nom de l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu pour qui est pour lui sa lumière, qui est pour lui son salut. Et parce qu'il a combattu au nom de l'Éternel, l'Éternel lui a donné la victoire. Victoire totalement improbable aux yeux des hommes. Pourtant, Dieu lui a donné la victoire. La confiance de David s'exprime aussi dans ce passage, malgré la guerre. Alors, c'est vrai que David, c'est un homme, un guerrier. C'est vraiment un guerrier. Et il sait ce que c'est que la guerre. Et il sait ce que ça signifie de se retrouver devant une armée qui campe contre toi. En fait, c'est ce que dit le verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Enfin, David, t'es réaliste ou quoi, là? Tu sais, moi, souvent, ce qui me vient à l'esprit quand on parle d'une armée qui campe contre moi, c'est de l'histoire de Gédéon. Vous savez, dans l'Ancien Testament, là, les ennemis arrivaient, ils étaient tellement nombreux qu'ils campaient dans la vallée, puis leur campement s'étendait à perte de vue, les ennemis étaient là, puis les Juifs se cachaient, enfin les Israélites se cachaient dans les montagnes. T'sais. Puis Gédéon, il se cachait, t'sais, lui aussi. Donc David, il dit, mais même si une armée campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Ouais, peut-être que David, tu devrais nuancer tes paroles. Tu devrais dire, j'aurais seulement un peu de crainte. Ou peut-être, j'aurais parfois de grosses craintes, mais tu m'aiderais à combattre contre elles, tu sais. Mais non, David, il emploie un vocabulaire qui est absolu. Il n'y a même pas de nuance. Il est convaincu que Dieu est avec lui. Puis dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans les défis qui sont devant nous, sommes-nous réellement convaincus que l'Éternel est avec nous? Et parce que l'Éternel est avec nous, nous ne sombrons pas devant la crainte. Notre cœur est sans crainte. Alors vous savez que souvent dans la vie chrétienne, c'est un combat saint. Parce qu'on vit peut-être des problèmes au niveau de la santé, on vient de perdre notre travail, et puis ça nous inquiète. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Puis souvent, notre cœur vit comme un aller-retour. C'est-à-dire, on se tourne vers Dieu, puis sur le moment, on a confiance, on n'a pas de crainte. Puis l'instant d'après, la crainte nous saisit de nouveau. Puis on revient au Seigneur, puis de nouveau le Seigneur apaise notre cœur. Puis de nouveau, nous sombrons dans la peur et la crainte. C'est vrai que le vocabulaire de David, ici, est quand même assez fort. Mais vous vous rappelez l'expérience de David? Moi, ça me rappelle lorsque Saül poursuivait David. Il avait 3000 hommes d'élite. Il était parti à la poursuite de David. Ils marchaient tous les deux d'un côté et de l'autre, de la vallée, de la montagne. Alors dans la vallée de droite, il y avait les hommes de Saül, il y avait 3000 hommes. Dans la vallée de gauche, c'était David qui se faisait poursuivre. Vous vous rappelez tout ça? David, il sait ce que c'est quand une armée campe devant lui. Saül, lui aussi, il savait ce que c'était quand une armée campait devant lui. Dans 1 Samuel, au chapitre 13, le texte nous dit que Saül se prépare au combat avec ses soldats. Les Philistins arrivent tout autour de lui. Ses soldats ont tellement peur qu'il y en a plein qui le quittent. Ils le quittent par centaines, par milliers, tu sais. Et puis Saül se dit, écoute, là, Samuel m'a demandé d'attendre avant d'aller combattre. J'attends, mais tous mes soldats me quittent, tu sais. Puis Saül a eu peur. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Dominé par la peur, il a décidé d'offrir le sacrifice à la place de Samuel. Vous vous rappelez de cet épisode? Alors il offre le sacrifice à la place de Samuel, alors que Samuel lui avait dit, attends. Et quand Samuel arrive, il arrive juste au moment où Saül vient d'offrir le sacrifice à la place du prophète. Vous savez, la peur, jusqu'où la peur peut nous amener? La peur peut nous amener à désobéir, à transgresser la loi de l'Éternel. Alors David exprime sa confiance en l'Éternel. Dans les versets suivants, versets 4 à 6, David va exprimer sa confiance par une première prière, où il va exprimer un désir, versets 4 à 6. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Ouais, mais là, David, écoute, là, t'es un petit peu déconnecté, là. Tu sais, je veux dire, il y a des ennemis qui se présentent contre toi, il y a des gens qui veulent te dévorer. Et puis là, toi, ton désir, c'est d'habiter toute ta vie. Oups, où est-ce que j'en suis, là? C'est d'habiter toute ta vie dans la maison de l'Éternel. Et ça, le texte nous dit, ce n'est pas un souhait que David avait. C'est un désir intense. Moi, il me semble que si ma vie était en danger, mon désir intense, ce serait que Dieu règle le compte de mes ennemis. Puis me délivre véritablement là, du danger auquel je fais face. Mais il y a autre chose dans la vie de David. Il n'y a pas juste ce désir de délivrance, ce désir que Dieu nous sorte du problème. Parce que souvent, face au défi, notre plus grand désir, c'est que Dieu nous délivre du problème. Notre plus grand désir n'est pas d'être en communion avec Dieu. Notre plus grand désir n'est pas d'habiter dans la maison de l'Éternel. Vous savez, quand ça ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je reste chez moi. Vous savez, mais si David vivrait aujourd'hui, il ferait face à toutes sortes de défis. Son désir intense, ce serait d'aller dans la maison de l'Éternel. Ce serait d'aller louer le Seigneur avec les frères et les sœurs. Ce serait de vivre la communion avec Dieu. Comment réagissons-nous quand nous faisons face à toutes sortes de difficultés dans notre vie personnelle. Vous savez qu'habiter dans la maison de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est aller au temple. Hein? C'est dans l'Ancienne Alliance. Mais habiter dans la maison de l'Éternel, dans le Nouveau Testament, c'est pas seulement aller à l'église. Nous sommes le temple du Seigneur, n'est-ce pas? Donc l'équivalence pour nous aujourd'hui, ce serait peut-être, malgré mes défis, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, j'aimerais, Seigneur, que tu m'en libères, mais j'ai tellement soif de toi que je rentre en communion avec toi tous les jours de ma vie. Je passe du temps avec toi tous les jours de ma vie. Et c'est vrai, quand j'ai l'occasion d'aller à l'église, j'y vais, parce que j'y vais avec mes frères et mes sœurs. Mais habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas aller à l'église le dimanche matin, point. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce qu'il est le temple du Saint-Esprit, je vis dans la présence de l'Éternel continuellement. Deuxième élément, dans ce bloc, ce sont les raisons et les conséquences de ce désir au verset 4, dernière partie du verset 4. Je veux habiter toute ma vie. Ah, c'est pas juste 5 minutes, hein, c'est toute sa vie. Dans la maison de l'Éternel. Je comprends David, vous savez. Pour être en communion avec Dieu, il fallait aller au temple. Ben, David n'était pas toujours au temple. Alors pour être en communion avec Dieu, il fallait se déplacer. T'sais. Et David aspirait à cet état qui consistait à être en permanence en présence de l'Éternel. Et nous, aujourd'hui, nous avons ce privilège. Parce que Dieu habite en nous. Habite dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçu. Donc, est-ce que je profite de ce privilège quand je fais face à toutes sortes de difficultés dans ma vie? Alors, il indique la raison, David, et il nous dit, dans ces quelques versets que vous voyez à l'écran, la raison pour laquelle il veut habiter en présence de l'Éternel, c'est parce qu'il veut admirer l'Éternel dans son temple. Je ne sais pas si Alexandre, la nuit, quand tu te réveilles, il est fatigué. Il se dit, ah, ça va être l'occasion d'admirer la beauté de mon enfant. Non, mais c'est vrai, en tant que parent, des fois, on admire la beauté de nos enfants, tu sais, c'est vrai. Et puis, on est content de les voir. On est content d'être avec eux, parce qu'on veut admirer cet enfant. T'sais. Mais est-ce que c'est la même chose avec Dieu? Est-ce que nous sommes en admiration devant la personne de Dieu? Est-ce que nous sommes en admiration devant ses attributs? Est-ce que nous sommes en admiration devant ses œuvres? T'sais. Ou est-ce que nous sommes des gens religieux qui avons l'habitude de venir à l'église, d'ouvrir notre Bible, de prier? Ou est-ce que véritablement nous admirons notre Seigneur? Vous savez, quand vous êtes fan d'une vedette, que ce soit une vedette de la chanson, une vedette sportive, on est tout excité quand on a l'occasion d'aller la voir. Alors peut-être que vous avez perdu cette âme d'enfant, là, tu sais, là. Mais j'imagine, moi j'ai un petit fils qui joue du hockey, tu sais, puis il aime ça, jouer du hockey, puis il est très dynamique, tu sais. Imaginez-vous, il connaît le nom de tous les joueurs de hockey du Canadien. Puis l'autre fois, ma femme est allée regarder à la maison, puis ils ont ouvert la télé, puis on parlait de sport, puis il dit « Ah, mamie, regarde, lui, c'est lui. » Tu sais, je veux dire, imagine-toi si moi je dis à mon petit-fils à un moment donné « Hey, il y a Gretzky, Gretzky il est déjà trop vieux, mais comment il s'appelle le joueur des pingouins là ?»« Crosby, merci, il vient à Montréal !» Il fait une séance de signature, tu veux qu'on aille le voir? Hey, je te dis que. Moi, j'imagine très bien, là, il y aurait des lumières dans ses yeux. Il serait excité. Il m'en parlerait des jours à l'avance. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il est attiré par ce joueur de hockey-là. Il voudrait lui ressembler. Tu sais. Est-ce que nous sommes attirés par la personne de Dieu? Est-ce que nous avons le désir de l'admirer pour pouvoir lui ressembler? Pour qu'il puisse changer notre vie. Ça touche les motivations de notre cœur, ça. Et vous savez, quand on est dans cet état d'esprit-là, eh bien, il y a tout de suite des conséquences dans notre vie. Et regardez les conséquences dans la vie de David, verset 5. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Dieu ne protège pas simplement à distance. Bien sûr, il peut protéger à distance, il n'y a pas de problème. Tu sais. Mais David, il sait que Dieu va le protéger dans la communion personnel qu'il a avec lui. Est-ce que tu veux simplement que Dieu règle ton problème? Ou est-ce que tu veux que dans la communion avec lui, dans l'admiration que tu as pour lui, est-ce que tu veux le voir agir dans ta vie? Oui, c'est deux choses différentes. Hein. Admirer Dieu, d'un côté, puis de l'autre côté, vouloir simplement que Dieu soit la solution à mes problèmes. Et tout de suite, David est en train de dire, il va me protéger, il va me cacher sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Puis au verset 6, par la foi, il dit, déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Dans les problèmes, dans les difficultés, dans les défis, vous pouvez déjà avoir la conviction que l'Éternel vous donne la victoire. Que déjà votre tête s'élève au-dessus des ennemis qui vous entourent. C'est ça la foi, les amis. C'est pas juste une formule. La foi, c'est un état d'esprit. La foi, c'est une relation avec Dieu malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Alors vous voyez, l'effet immédiat de sa prière se fait sentir au verset 6, comme nous venons de le souligner. Et déjà, par la foi, David dit, « J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Alors peut-être que quand vous êtes dans des difficultés, vous avez un peu de problème à louer Dieu, à le célébrer, là, tu sais. Vous le faites un petit peu, peut-être du bout des lèvres. Hein? Ça peut arriver, ça, c'est normal. Ça fait partie des épreuves. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, il n'a pas commencé à chanter plein de chants de louanges en frappant dans les mains. Et puis, non, c'était pas évident. T'sais. Mais David sait que malgré les défis qui sont devant lui, le jour va venir où il va de nouveau l'adorer. Il va de nouveau le célébrer. Et cette conviction, elle vient de l'état de son cœur. Son désir de voir Dieu, d'habiter dans sa maison, d'être en communion avec lui. Troisième élément dans ce psaume, la confiance de David s'exprime par une deuxième prière, donc, ou par l'expression de sa crainte, au verset 7. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. » Alors on se dit, enfin David, il commence à être réaliste, il commence à crier. C'est quoi là, il se trouve devant une armée, et puis... Ça lui passe 10 pieds au-dessus de la tête, tu sais. Puis il y a des ennemis qui veulent dévorer sa chair. Oh, ça lui passe 10 pieds au-dessus de la tête. Ah, oh, enfin, David, tu comprends, là, tu es un petit peu humain, là, tu sais, tu cries à Dieu. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Vous voyez, il y a une supplication, là, hein, que David exprime. La foi n'annule pas ces prières de supplication que nous pouvons faire monter à Dieu. Parce que nous sommes frappés en plein fouet par nos épreuves et nos difficultés. Tu sais. Ce n'est pas un manque de foi que d'exprimer notre crainte devant le Seigneur. Verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Là, on a une description des souffrances de David. Et David exprime sa crainte, exprime ses peurs dans la situation qui est la sienne. Mais vous voyez, dans le psaume, il y a comme un équilibre. C'est vrai que parfois, il y a des psaumes qui sont seulement un cri, mais ils sont quand même minoritaires, ces psaumes-là. Dans la plupart des psaumes, les psalmistes font monter vers Dieu leur cri, expriment leur souffrance, mais associés à des paroles de foi, de confiance. Est-ce que nous, dans nos difficultés, nos problèmes, nous avons cette facilité de crier à Dieu tout en faisant monter vers lui des paroles de confiance? Je me rappelle quand j'étais pasteur à Châteauguay, le siècle passé, donc ça fait un bout de temps, il y avait un membre de l'église qui est venu me voir et qui me dit, Philippe, il me dit, je prie tout le temps pour que Dieu me délivre et puis il ne me délivre pas. J'ai dit, comment tu fais quand tu pries? Je crie à Dieu, puis je présente mon problème, puis je parle de mon problème, puis je parle de mon problème. Il dit, oui, mais tu fais pas autre chose? Il dit, non. J'ai dit, c'est normal quand tu as fini de prier, que ce qui reste dans ta tête, c'est ton problème. Parce que tu n'as jamais pensé à louer Dieu, même dans ton problème. Tu n'as jamais pensé à faire monter vers Dieu des paroles de reconnaissance pour qui Dieu est. Tout ce qui t'obsède, c'est ton problème. Et tes prières sont remplies de ton problème. Quand tu as fini de prier, tu dois être encore, ton cœur encore être rempli de ton problème. Et là, on voit un équilibre dans la vie de David. Vous voyez comme la lutte se fait dans la confiance. La lutte n'exclut pas l'expression de notre souffrance. Au contraire. Mais la lutte se fait aussi par des paroles de foi et par aussi notre désir d'être en communion avec Dieu. Versets 7 et 11. Donc il crie à l'Éternel. Versets 7 et 11. Il implore la grâce de l'Éternel. Verset 7. C'est assez extraordinaire de compter sur la grâce de Dieu, d'implorer la grâce de Dieu. Seigneur, fais quelque chose, là, ne me repousse pas, aie pitié de moi, exauce-moi. David crie à l'Éternel. Et le cri à l'Éternel revient au verset 11, lorsqu'il implore Dieu de lui enseigner sa voie, de le conduire dans les sentiers de la justice. Il dit, à cause de mes ennemis. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi il implore Dieu de lui enseigner sa voie? Ok, qu'il implore Dieu pour que Dieu ait pitié de lui, que Dieu l'exauce. Ok, je comprends, tu sais. Il vit des problèmes, il vit des défis, tout ça. Que Dieu puisse l'exaucer, je comprends. Mais pourquoi il implore Dieu pour que Dieu l'aide à marcher dans la voie de la droiture? Et il dit, je te demande de m'aider à marcher dans la voie de la droiture à cause de mes ennemis. Se pourrait-il que les ennemis ou les épreuves ou les difficultés nous fassent dévier de la voie sur laquelle nous devons marcher? Nous fassent dévier du sentier de la droiture ou de la justice? Et David, son souci, c'était de demeurer dans le sentier de la justice. Et son souci était que les ennemis ou l'épreuve ne puissent pas le détourner du chemin sur lequel Dieu voulait qu'il marche. Alors, il y a toute une dimension dans la prière de confiance de David, qui n'est peut-être pas là quand nous faisons face à des difficultés ou à des épreuves. Deuxième élément dans ce bloc, dans cette prière, c'est sa recherche de l'Éternel qui revient au verset 8. Mon cœur dit de ta part. Bon, David, il se parle à lui-même. Tu sais, c'est pas un problème psychiatrique qu'il a, tu sais, mais il se parle à lui-même. Et souvent, les psalmistes se parlent à eux-mêmes. Philippe, écoute là, regarde ce que l'Éternel fait pour toi. Mets ta confiance dans l'Éternel. Puis là, c'est comme si David, il entendait cette voix intérieure. Et puis il suivait les indications de cette voix intérieure. Est-ce que ça vous arrive quand vous êtes dans des problèmes, difficultés, de vous parler un petit peu comme ça? Moi, ça m'arrive souvent de parler tout seul. Puis souvent, ma femme me dit, alors, qu'est-ce que tu es en train de te dire aujourd'hui, là, t'es? Elle veut savoir qu'est-ce que je suis en train de me dire. Puis elle me dit, pourquoi tu parles tout seul? Je dis, ça me fait du bien de parler tout seul. Au moins, je parle à quelqu'un qui me comprend. Mais ici, David se parle à lui-même. Et il dit, au verset 8a, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. David se parle à lui-même et dit, cherche la face de l'Éternel. David est en train de conseiller son propre cœur. Vous savez que vous pouvez être le premier conseiller de votre cœur dans les difficultés ou les épreuves. Et le verset 8, la dernière partie du verset, il se répond, David. Et en se répondant, il répond à l'Éternel. Parce qu'il dit, oui, Éternel, je cherche ta face. Alors, vous voyez, ce dialogue intérieur peut nous aider dans les difficultés, dans les problèmes. Et ce dialogue intérieur peut manifester notre foi en Dieu. Les versets 9, 10 et 12 nous présente encore une fois la peur de l'Éternel. Ce n'est pas de manquer de spiritualité, encore une fois, de se taire sur notre peur, notre crainte ou sur le problème. Je pense qu'on manque de profondeur spirituelle quand notre problème n'a pas la place qu'il doit avoir et quand l'Éternel n'a pas la place qu'il doit avoir. Mais exprimer nos craintes n'est pas du tout un manque de foi. Au contraire. Et au verset 9, les paroles sont très fortes. Hein. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Vous voyez, il y a cette idée de la souffrance suite à l'abandon. Vous savez, à l'église de Jésus, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai jamais eu de père. Puis il m'a dit, ça m'a manqué toute ma vie. Et cette personne-là, elle a 80 ans. C'est quand même fort, hein. De voir que ce sentiment d'abandon te poursuit pendant toute ta vie. Et David est en train de parler d'abandon. Puis, surtout, Seigneur, que toi, tu ne m'abandonnes pas. Probablement que David, il doit être conscient de certains de ses péchés aussi. Puis il se dit, ouais, je crie à Dieu pour que Dieu vienne à mon secours. Mais qu'est-ce que je mérite? Je ne suis qu'un pécheur, tu sais. Il a au-delà de la peur des circonstances ou du problème auquel il fait face, David a peur que l'Éternel l'abandonne, vous vous rendez compte? Et au verset 12, il nous dit ceci, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Oh, la crainte de David, c'est d'être abandonné à ces méchants. Vous savez, quand Akab a voulu obtenir la vigne de Naboth, sa femme a dit, t'inquiète pas, moi je vais te l'avoir la vigne. Elle a engagé des faux témoins pour que Naboth puisse comparaître devant les autorités, puisse être accusé de blasphème à tort, puisse être condamné pour que le roi puisse prendre sa vigne. Vous savez, c'est terrible de tomber entre les mains des faux témoins. Et David le sait. Malgré la loi qui dit que nous devons être justes dans notre témoignage, il y a des gens qui voulaient la manipuler et qui étaient des faux témoins. Alors David exprime donc sa peur dans ces quelques versets. Mais regardez le verset 10. Même s'il exprime une peur ultime, car mon père et ma mère m'abandonnent. D'habitude, c'est les pères qui abandonnent les enfants, tu sais. Enfin, majeure partie des cas, tu sais. C'est rare qu'une mère abandonne ses enfants. Mais ça peut arriver. Et David est en train de dire, même si l'impensable se passait, même si ma mère m'abandonnait, mon père, c'est sûr que ça fait souffrir, mais ma mère encore plus, c'était peut-être. Mais si les deux m'abandonnaient, ben l'Éternel me recueillera. Vous savez, même dans ces craintes profondes, David exprime encore sa foi en l'Éternel. Alors en conclusion, moi j'aime bien venir prêcher ici, mais je me rends compte que l'horloge indique 7h-5, donc j'ai dû dépasser mon temps depuis quelques temps. Je ne sais pas s'il faudrait faire une réclamation au niveau pastoral, tu sais, à cause de l'heure. Non, je plaisante. On va conclure par ce retour à la confiance de David dans les versets 13 et 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. David conclut son psaume de confiance comme il avait commencé, en revenant à la confiance en l'Éternel. Et il réfléchit sur cette confiance à l'Éternel et au verset 13. Il médite sur cette confiance et il dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» Point de suspension, exclamation dans nos Bibles. Ça veut dire que David est en train de se dire « Si je n'avais pas la confiance en l'Éternel, qu'adviendrait-il de moi ?» C'est encore une fois une réflexion qui lui rappelle le privilège immense qu'il a de pouvoir placer sa confiance en l'Éternel. Vous savez, quels sont vos défis aujourd'hui? Quels sont vos problèmes
qui vous semblent insurmontables, tu sais? Quels sont-ils? Chacun de vos problèmes sont importants pour vous. Souvent, on se compare. Quand on veut conseiller un frère ou une sœur, on lui dit bah, écoute, ce que tu vises, écoute, finalement, réfléchis-y, c'est pas si grave que ça. Puis on minimise un peu ce que vit la personne. Non, non, loin de nous cette idée de minimiser ce que vous vivez. Mais est-ce que vous pensez au privilège immense que nous avons de pouvoir placer notre confiance dans la bonté de l'Éternel? Moi, j'ai besoin de bonté. Je ne sais pas si vous avez besoin de bonté. Moi, j'ai besoin de bonté dans ce monde. Ok, j'espère que mon besoin de bonté ne fait pas en sorte que je ne manifeste pas de la bonté envers ceux qui m'entourent. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Je peux très bien être bon envers ceux qui m'entourent, mais je peux aussi avoir ce besoin de bonté-là. Dans un monde de souffrance, dans un monde de guerre, de violence, d'abus, j'ai besoin de bonté. Et ce n'est pas une faiblesse que de reconnaître que j'ai besoin de bonté. Et cette bonté-là, je peux la trouver en l'Éternel, nous dit David. Et verset 14, eh bien, il lance un appel. Espère en l'Éternel. Alors, cet après-midi, je pense que c'est un appel pour chacun d'entre nous. Hein. Nous lisons ce texte. Espère en l'Éternel. Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est David qui nous le dit. Et David, il dit aussi pour moi. Et si je le prêche, c'est parce que j'en ai d'abord besoin de moi. Donc, espère en l'Éternel, nous dit David à chacun d'entre nous cet après-midi, et nous dit, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Vous savez, on dit dans notre théologie réformée que c'est Dieu qui nous affermit, que c'est Dieu qui va nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Vous y croyez, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que la Bible ne dit pas aussi de se fortifier? Même si c'est Dieu qui nous soutient, qui va faire en sorte que nous allons être fidèles jusqu'au bout, n'y a-t-il pas dans la parole de Dieu cette dualité aussi? Fortifie-toi. Et comment tu peux te fortifier? C'est en méditant des textes comme le psaume 27. C'est en regardant les modèles de foi que David nous présente. Et de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre la foi que David avait. Tu connais mon problème, Seigneur. Je te l'ai souvent dit, le problème. Puis je vais te le répéter encore. Mais Seigneur, je voudrais tellement que tu m'aides à me fortifier, que je puisse suivre l'exemple de David, et que ma foi, qui vient de toi, qui est ma foi, mais qui vient de toi, m'aide à me fortifier. Espère en l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce beau psaume. Beau psaume d'encouragement, Seigneur. Mais nous connaissons pour la plupart la vie de David et tous les défis auxquels il a dû faire face dans sa vie. Face à ses ennemis, face à Saül. Combien, Seigneur, tu as dû intervenir à plusieurs reprises pour le sauver, le libérer de la mort, de ses ennemis qui voulaient le dévorer. Et Seigneur, peut-être que cet après-midi se trouvent parmi nous des frères et des sœurs, des hommes, des femmes qui font face à toutes sortes de défis et qui ont parfois l'impression que les eaux les submergent. Seigneur, aide-nous à nous rappeler qui tu es. Tu es l'Éternel qui veut faire alliance avec nous en Jésus-Christ, qui fait de nous tes enfants lorsque nous acceptons Jésus comme celui qui nous pardonne de nos fautes et de nos péchés. Seigneur, tu es celui qui t'est engagé envers nous. Tu t'es tellement engagé que tu as accepté que ton fils vienne mourir pour nous. Comment est-ce que je pourrais ne pas avoir confiance en toi alors que tu as payé un si grand prix à la croix, Seigneur? Pardonne mon incrédulité, Seigneur.
pardonne parce que j'oublie tellement que tu es un Dieu qui s'est engagé, qui est un Dieu d'alliance, un Dieu qui ne m'abandonnera pas. Seigneur, au travers des défis qui sont les miens, je voudrais ce soir, cet après-midi, les déposer au pied de ta croix dans un acte de foi. Et maintenant, Seigneur, je voudrais dans mon cœur te le dire. Seigneur, je dépose cette situation au pied de ta croix. Seigneur, je dépose ce problème au pied de ta croix. Seigneur, je dépose cette montagne qui me paraît insurmontable. Je veux la déposer au pied de ta croix. Et Seigneur, je voudrais que tu m'apprennes, en relisant ce psaume, à exprimer ma foi en toi. Seigneur, je sais que c'est un combat, mais je sais que tu me soutiens. Parce que, ô Éternel, tu es ma lumière, tu es mon salut. Et même si je doute, et même si ma foi faiblit, comme Pierre quand il marchait sur les eaux à la rencontre de Jésus, Seigneur, c'est toi qui vas me relever. C'est toi qui vas me permettre de continuer. Mais Seigneur, je voudrais tellement fortifier ma foi. Je voudrais tellement le faire aussi avec ce désir intense d'être en communion avec toi, même dans les difficultés et les problèmes. Espère en l'Éternel.